Backstage, rencontre avec les acteurs du monde de la musique, afin d'en décrypter les rouages et de mettre en lumière les nouvelles initiatives. Avec Julie Chaise-Martin. Bonjour à tous, je suis au studio Sextant aujourd'hui à Malakoff en compagnie de Vincent Mahé et François Hiverna. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors ravie d'être ici, un studio qui a une longue vie et tous les deux, eh bien, vous avez une actualité en dehors de la vie quotidienne et actuelle du studio Sextant. Une renaissance, une actualité qui fait renaître un label qui s'appelle Piwi et que vous aviez créé ensemble il y a plus de 20 ans. C'était au milieu des années 90. Alors, une petite histoire là-dessus, parce que finalement, créer un label aujourd'hui, en plein confinement, en pleine crise, enfin créer, relancer un label en fait, c'est un défi. Vincent, Mahé.
Un défi, oui, sans doute. C'est un acte totalement déraisonnable et néanmoins mûrement réfléchi. Studio Sextant, c'est une vieille histoire. C'est une histoire qui a plus de 40 ans. Donc les murs dans lesquels on se trouve aujourd'hui, ils ont vibré de beaucoup de choses différentes pendant ces 40 années. Et la vocation de Sextant au départ était, et toujours jusqu'aujourd'hui, d'être fournisseur de services, c'est-à-dire on enregistre ici au studio tout type de musique et tout type de production. Donc en fait notre cœur de métier, on va dire, c'est la réalisation pour d'autres maisons de disques ou pour des musiciens qui viennent à compte d'auteur. Donc ça c'est effectivement notre poumon économique, on va dire, un de nos poumons, le deuxième étant une activité sur les concerts. Donc Sextant a toujours ménagé ces deux choses qui correspondent à nos savoir-faire, nos métiers d'origine, on va dire, François et moi. Nous sommes ingénieurs du son au départ. Ben, on est bien heureux effectivement d'avoir ce studio pour pouvoir continuer notre activité et notre engagement à côté des musiciens qui gravitent autour de nous. Alors c'est vrai que c'est une drôle d'histoire, cette histoire du label. Le label a toujours été associé au studio.
Même à ses débuts, même dans la période... Il y a 20 ans
Même était... à ses débuts. L'histoire est un peu longue, alors je ne sais pas si on a
rapidement,
le temps.
Rapidement, juste pour comprendre l'articulation finalement de ces deux entités, à savoir le label et le studio.
Alors, rapidement, je vais essayer de faire effectivement succinct. Le studio Sextant a plus de 40 ans d'existence. François et moi, nous étions dans une structure des amis proches de Sextant. J'ai commencé mon métier ici en étant accueilli par mes aînés Jean-Paul Debarre et Hervé Martin, qui avaient créé cette structure avant moi. Grâce à eux, qui m'ont mis le pied à l'étrier, j'ai eu l'envie de créer ma propre boîte, et donc mon studio qui était indépendant à ce moment-là de Sextant. Et c'est là où on s'est rencontré avec François, où ce studio s'est appelé Piwi Mobile. Et il avait la vocation de faire du son de scène, mais notre premier client c'était Dizzy Gillespie par exemple. C'était déjà très relié à notre passion d'origine, c'est-à-dire ces musiques acoustiques et puis ce jazz au sens très large, tel qu'on en avait l'idée à l'époque, c'est-à-dire effectivement Dizzy, le tenant du bebop, ça nous passionnait, mais ce qui nous passionnait aussi, c'était éventuellement des choses dans un style très différent. On a construit notre maison qui s'appelait Piwi Mobile.
Pourquoi déjà... Piwi à l'époque déjà, ce nom ? Il vient d'où ?
Alors Piwi, le nom vient d'une composition de Tony Williams. Tony Williams étant un musicien qui nous a beaucoup marqué et qui a écrit ce morceau, en tout cas je ne sais pas s'il l'a écrit pour Miles, mais en tout cas la première fois qu'il a été enregistré c'était sur un album de Miles qui s'appelle Sorcerer, pour la petite histoire que je trouve toujours jolie à raconter. C'est qu'en fait c'est le seul morceau où le quintet de Miles est un quartet, parce que Miles ne joue pas.
Ah oui.
sur la version de Pee-wee, bon ça c'est assez anecdotique, mais quand même assez rigolo, parce que ça, c'est arrivé peu. Et alors ça c'est à vérifier, je vous laisse le vérifier, parce que c'est assez mystérieux, mais les Piwis seraient des Indiens d'Amérique du Nord, qui étaient des hommes de toute petite taille, ce qui nous correspond pas mal, évidemment.
Vous êtes d'accord, François ?
Sur le Piwi, ben le nom, l'origine de Piwi, oui, parce que c'est Vincent qui l'a créé, Piwi Music, Piwi Mobile, avant qu'on se rencontre. Voilà, notre rencontre date de...
C'était comment cette rencontre? Dans quelles circonstances?
C'est une circonstance où moi je recherchais du travail et Vincent m'en a proposé par le biais d'amis communs. Donc Piwi Mobile existait déjà, donc on parle de 1992,
d'accord.
Notre rencontre.
Piwi date de 86.
Ouais. Ah oui, donc, d'accord.
Piwi Mobile 86, donc moi j'ai rencontré Vincent en 92. Ça tombait bien parce qu'on a plutôt des goûts communs dans la musique. Cette aventure a continué ensuite avec la création du label Piwi qui s'est appelé Piwi Music à l'époque. Mm-hmm. Voilà. Donc ça c'est 95.
D'accord. Et c'était quoi l'esprit du label à l'époque alors ?
Bah, c'était déjà sur des musiques plutôt, quoique non, j'allais dire acoustiques, mais non, des musiques, des univers très différents.
Le jazz, c'est quand même un fil conducteur ?
Oui, le jazz, les musiques improvisées, les musiques acoustiques. Dans nos productions, on trouve aussi bien du flamenco avec un disque de Pedro Bacan que des musiques africaines avec Francis Bébé, que des choses... plus expérimental avec Olympique Gramophone, avec des jeunes à l'époque, Cyril Atef, Vincent Segal, Julien Louraud, enfin voilà, des choses plus expérimentales. C'est toujours un label où on a essayé de faire des choses de musique qui nous touchaient. Voilà, on ne s'est pas enfermé dans un style de musique.
Je vois Tania Maria aussi, Vincent Mahé. Je crois qu'il y a une relation particulière avec cette chanteuse.
Très particulière, en effet, parce que Tania n'était pas la toute première cliente régulière de Piwi, mais enfin, elle était là quand même très tôt. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup appris avec cette immense musicienne. C'était au début des années 90, elle était vraiment au sommet de sa notoriété, donc très, très grosse activité. Et juste en Europe, elle faisait 80 ou 90 concerts par an. Et à chaque tournée, elle nous ramenait un casting différent. C'était un coup Steve Gadd et Anthony Jackson. Un coup d'après, c'était Don Alias avec Daryl Jones et c'était évidemment le son de l'époque, mais elle était très en avance sur cette époque-là en ayant proposé une espèce de fusion, voilà, comme les Brésiliens ont le sens. C'était pas le Club Med, hein. Personnalité très très forte, extrêmement exigeante. En y repensant aujourd'hui, ça me fait presque marrer de voir à quel point l'énergie que ça me demandait d'être intégralement avec elle. Et j'ai beaucoup appris de ce côté-là, c'est-à-dire vraiment, elle exigeait dans son regard, dans sa façon d'être, qu'on soit totalement avec elle et totalement à son service, mais aussi à manifester des choses et puis ses choix, parce que forcément qu'un ingénieur du son, il a des choix à tous les instants. Mais bon, bref, c'est un peu, effectivement, c'est un peu ma marraine et par extension, c'est un peu devenu la marraine de Piwi. Elle a eu la délicatesse, la grande bienveillance, gentillesse, je ne sais pas comment le qualifier, de nous offrir deux albums sur le label. Alors qu'à l'époque, il faut se rappeler qu'en 91-92, elle était donc Grammy Award, meilleure vocaliste de l'année, meilleure vente de disques de jazz aux États-Unis, devant Miles et tout le monde. Donc c'était une grande star, quoi.
D'accord.
Et c'est vrai que nous, on a beaucoup appris. Le fait qu'il y ait ces deux disques sur le label, c'est une richesse. D'autant plus que c'est des disques qui sont un peu particuliers qui ont leur intérêt dans toute la discographie de Tania. Il y a ce disque qui s'appelle Europe, qui est une compilation de ces moments qu'on a passés ensemble. Et il y a avec en particulier une version de Funky Tambourine qui est un de ses gros tubes, on va dire, par Steve Gadd et Anthony Jackson, justement, qui est juste une espèce de sommet de musique pas possible.
C'est un disque qui faisait le lien entre la scène, parce que c'est pas un disque de studio, hein. Mm-hmm. C'est vraiment des enregistrements de scène, donc ça faisait un lien en plus entre nos deux métiers déjà de scène et de producteur de disques.
C'était... Oui, c'est ça, deux métiers que vous continuez toujours depuis plus de 20 ans, à la fois en studio, sur scène.
Vous pouvez dire 40, mais confinement. C'est pas grave, on ne les fait pas.
Oui, 40. Ah oui, c'est vrai, vous faites plus jeunes tous les deux. Un peu moins pour pour François,
vous y allez,
non,
comme
non.
Vous y allez.
Bon, disons 40 ans de ouais. 40 ans de musique, de scène, de studio, ouais. de label un peu moins, mais donc Pee Wee Origine, c'est quoi? C'est 5 ans d'activité assez intense avec 26 albums, j'ai vu. Et donc ça a duré 5 ans et puis ça s'est arrêté. Et en 2000.
C'est bizarre. Hein.
Ouais.
C'est très bizarre.
Pourquoi?
On se pose encore la question.
Un long sommeil, puisqu'on est aujourd'hui en 2021. Ouais. Décision de faire renaître ce label pendant la période de crise, là, en fait.
Oui.
Il y a eu une réflexion, le fait justement de sortir un peu d'un quotidien. Enfin, je veux dire que, évidemment, c'est des situations qu'on vit tous assez difficiles, de crise, de difficultés financières. Mais en même temps, il y a pas mal de gens qui créent des projets ou qui se lancent dans des nouvelles choses. Ça fait partie aussi de cette réflexion, d'un état, j'allais dire, de réflexion pendant le confinement, de se dire, allez, on a cette envie.
L'envie, elle était déjà là un peu avant cet épisode de confinement. C'est déjà des choses qui revenaient dans nos discussions, qui revenaient dans l'air, des envies de Vincent avait beaucoup envie de revenir à la production. Parce que le fait d'enregistrer des disques pour d'autres, ça donne aussi des idées, des envies, parfois de direction artistique, hein, que Vincent peut faire sur d'autres disques. Et donc cette envie était déjà là. Le confinement, ça a été pour nous la manière d'y aller vraiment, quoi, de se dire ok, là on a du temps, ce qu'on est en train de repenser depuis 2 ans, allons-y, quoi.
Parce que le studio a souffert de la crise aussi.
Pour compléter un tout petit peu, effectivement, le fait que ce soit arrêté comme ça abruptement, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. On a finalement en 5 ans, on a produit beaucoup.
Oui.
On a produit intégralement 26 albums, sans subvention, sans aide, sans donc.
Ah oui.
J'allais dire que c'était un gros. C'était très résolu comme position, une position résolument indépendante, avec des choix complètement assumés, des choix qui sont assez. Qui étaient à l'époque difficiles à classer, parce que entre Tania Maria, Pedro Bacan, Francis Bébé, Olympic Gramophone, et puis éventuellement Christian Brun, qui est un guitariste de bebop, post-bop, ça fait des grands écarts, mais disons qu'il y avait une posture indépendante qu'on revendiquait, et aussi pour compléter un tout petit peu le panorama sur une pseudo-ligne esthétique, en fait, moi ça me paraît même difficile de parler des choses de cette façon-là. Je pense qu'il s'agit plus pour François et moi d'une préoccupation, d'un état d'esprit général qu'on recherche, plutôt que d'un style. On n'a jamais été tellement intéressé par les styles. On est plus à la recherche d'un état d'esprit, en fait d'une force de discours. J'aime pas parler d'authenticité parce que c'est un terme qui est très galvaudé, mais utilisons-le quand même pour faire simple. Et donc c'est vraiment plutôt la singularité, la force du discours qui nous attire plutôt que... Après ça, c'est vrai qu'on est des dingues de musique depuis qu'on est tout petit. On a dépensé tout notre argent de poste à acheter des vinyles. Donc c'est vrai que que de Bowie à Led Zeppelin en passant par Coltrane. On s'enfermait 3 mois de suite en écoutant Coltrane seulement, comme des moines ascétiques. Bref, il y a tout ce brassage-là. Et si je refais ce petit panorama en arrière, c'est pour dire que la frontière entre notre activité professionnelle et qui évidemment nous a fait vivre, et la production qu'on a toujours pris très au sérieux, si la production indépendante permettait de faire vivre plusieurs familles, ça se saurait. Donc ça n'a pas été notre cas. Toujours, on garde cette illusion aujourd'hui, mais disons qu'en même temps, on n'a pas énormément d'illusions. On cherche à en faire quelque chose qui ait une réalité quand même, qui soit pris le plus professionnellement possible. Mais disons que c'est vrai que ça s'est quand même toujours inscrit à côté de ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire les concerts, suivre les artistes. Et puis ça a trouvé une très grande cohérence dans les liens que ça a créés, dans le fait, l'exemple de Tania est un assez bon exemple, parce que pour Tania, c'était pas très logique, après Blue Note et Universal, de venir faire un disque chez Pee-wee. Mais bon, et pour Francis Bébé, c'était pas très logique d'aller faire un disque chez Pee-wee, alors que Peter Gabriel lui ouvrait ses portes en énorme. Mais c'est ce qui fait aussi qu'on trouve une cohérence au milieu de tout ça. Alors pourquoi on s'est arrêté abruptement en 2000 ?
Oui, pourquoi ? Pour
différentes raisons, certaines étant très objectives et d'autres étant jusqu'aujourd'hui très obscures, on a eu quand même à faire face au dépôt de bilan de Mediaset, qui était notre distributeur. Et ça fait beaucoup de tort pour les petits, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de gros distributeurs indépendants qui faisaient un boulot fantastique, qui subitement, avec plus ou moins d'élégance, ont mis la clé sous la porte en laissant des énormes ardoises. Ça nous a pas facilité la vie. Et puis après, franchement, la raison principale, c'est que je crois qu'en fait, j'arrive pas à dire rien de mieux qu'on avait d'autres choses à faire. Et d'autres choses à faire, c'était aussi de suivre les artistes, de suivre Ahmad Jamal, de suivre Lucky Peterson, de suivre l'Orchestre National de Jazz dont François s'occupait, ce qui est quand même une activité très consommante. Et puis ensuite, de faire vivre une petite boutique comme la nôtre, bon, bah, c'est vrai que c'est une gageure. Voilà, après, on avait, on avait nos familles à faire vivre, peut-être un petit coup de
voir à créer nos familles aussi.
Ouais, de
ça, voilà.
Ouais, c'est des choses un peu toutes
ça,
bêtes.
Vous êtes plus jeune.
Aujourd'hui, ça va, là, j'en ai marre.
Hein. On a à peine 3 ans d'écart.
Ah oui, oui, non, ça se voit.
Ou 4 ans. Allez. Je ne sais pas.
Donc c'est vrai que ça a fait quelque chose d'assez fulgurant qui s'est arrêté abruptement. On l'a mis en sommeil et puis le sommeil il est devenu très profond. Et c'est vrai qu'à un moment on s'est dit bon en fait c'est mort. C'était juste un beau souvenir quoi. Et puis il y a quand même cette envie d'indépendance, d'assumer nos choix, de se rapprocher de nos choix, qui fait que c'est vrai que moi ça faisait un moment que ça me tournait dans la tête. Et si on n'y a pas été plus tôt, c'est probablement parce qu'on mesure mieux aujourd'hui la responsabilité que ça représente de se relancer dans la production. On a l'arrogance de dire que maintenant on sait réaliser un disque. Par contre, on se retrouve débutant comme au premier jour dans l'océan que représente l'exposition d'un disque aujourd'hui.
C'est pas le même contexte qu'au milieu des années 90 et certes, dans les années 2000. Est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui, à votre avis, de lancer un label et de...
Une des raisons pour laquelle on a arrêté aussi, c'est que c'est 2000, c'est une période extrêmement compliquée pour le disque.
Mm-hmm.
L'arrivée
du numérique aussi.
L'arrivée du numérique, ouais. Des échanges sur Internet totalement sauvages de musique. Ça a été aussi les ventes de disques aussi à partir de... Alors, ça n'a jamais été des chiffres astronomiques pour Pee-wee. Oui, mais ça a été aussi une chute assez rapide et brutale des ventes partout. Hein. Je pense que actuellement, on ne sait pas trop ce que vont être les ventes du nouveau Pee-wee.
Parce que l'objet disque aujourd'hui, l'objet c'est disque, pareil, c'est compliqué.
Ça se vend très peu, mais il y a un retour du vinyle, on y viendra aussi. Nous, oui. Je pense qu'il y a un retour à l'envie d'avoir un support dans les mains, cette idée du tout numérique, enfin, ou alors je me fais des illusions, mais
Ça fait 25 ans qu'on nous annonce la mort du CD.
Ouais.
Donc on constate qu'il n'est pas mort. et le pari qu'on fait, c'est un pari de se dire, il y a une chose qui n'est pas morte, mais qui est quand même en grand danger, c'est la production dans les règles de l'art à l'ancienne. Parce que on peut vraiment le regretter. Nous, on le vit quotidiennement ici au studio, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même 90% des choses qu'on fait qui sont faites à compte d'auteur, non pas par volonté, mais par nécessité, parce qu'évidemment, la production indépendante est une microéconomie qui est une gageure, mais on a perdu, avec des producteurs à l'ancienne entre guillemets, on a perdu une forme de façon de fabriquer un album. Un album, c'est maintenant, on aurait tendance à croire que c'est une suite de choses qu'on va installer sur le net, morceau par morceau. Bon, alors on a encore l'innocence, ou en tout cas la volonté, de penser que un album, c'est autre chose. C'est une construction qui peut être véritablement avoir du sens en étant réunie sur un objet physique. Oui, pourquoi pas.
Qu'est-ce que ça signifie justement qu'il y ait 90% d'artistes qui s'autoproduisent là quand ils viennent dans votre studio, c'est ça que vous dites en fait?
Ouais.
Ça, c'est donc beaucoup plus qu'avant. Enfin, ça signifie que les labels sont... Pourtant, il y a toujours des labels. Donc, ça traduit quoi, en fait? Qu'il y a une perte de confiance
entre
l'artiste et un label, ou que c'est...
Ça traduit que c'est quand même une microéconomie, que c'est une gageure, et que du coup, on trouve toujours des passionnés qui vont investir dans cette forme de soutien ou même d'art direct, mais que ça se tarie un peu, parce que c'est quand même effectivement... ça devient une quadrature du cercle de faire de cette chose une activité économique. Donc en fait, ça traduit simplement que tous les petits producteurs sont morts. Si vous examinez la liste des adhérents aux Allumés du Jazz, qui sont l'organe essentiel de tous les labels indépendants français qui s'intéressent à ces musiques, et ben effectivement, j'ai peur qu'on soit dans la proportion de genre, dans ce même genre de proportion, c'est-à-dire 80% des labels sont des labels de musiciens qui sont créés pour leurs propres besoins.
Des collectifs.
Et je dirais que c'est pas vraiment un choix résolu, c'est vraiment par défaut, quoi.
Ouais.
Il y a aussi beaucoup de producteurs historiques, comme Jean-Marie Salani, par exemple. Il a toujours dit, moi je m'intéressais à Didier Locoud, je m'intéressais à Henri Texier, et puis il n'y avait pas de maison de disques pour eux. Alors il a bien fallu que je la crée, la maison. Mais ça, c'était il y a bien longtemps, et il en a fait quelque chose qui avait une vraie économie. C'est devenu un grand producteur. Enfin, c'était déjà à l'origine bien d'autres comme lui. Je pense à Jean Rochard tout de suite, qui a cette magnifique maison de disques qui s'appelle Nato, qui existe toujours, qui est vraiment une façon de penser la production. On s'est éloigné de ça parce que l'économie est très fragile, et parce que aussi, effectivement, il y a les nouveaux moyens de diffusion nous ont peut-être un peu aussi éloigné d'un certain essentiel. En tout cas, nous, avec François et Simon Goubert et Virginie Crouaille, qu'il faut mentionner très vite aussi,
oui, parce qu'en fait,
ce sont nos deux autres associés sur le nouveau projet.
C'est-à-dire que le nouveau Pioui, avec un point d'exclamation après...
On va en parler, voilà. On va en parler, ouais.
Vous êtes quatre.
Ouais. Mais en tout cas, pour finir avec ça, effectivement, nous, on a, je pense qu'on a encore en tête, alors peut-être que c'est très rétrograde, peut-être que c'est pas vendeur, mais en tout cas, on s'accroche à cette idée-là de la production, et de dire qu'effectivement, un disque, c'est aussi, ça peut être une œuvre en soi. Et après, il suffit qu'on fasse aussi un joli packaging pour que, éventuellement, ça continue d'intéresser des gens. Là, pour le coup, on est des véritables débutants. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas.
Après, il y a quand même un savoir-faire, j'allais dire, Studio Sextant et du coup Pioui, puisque l'avantage, c'est que en relançant un label, vous avez aussi ce socle du Studio Sextant qui permet aussi de faire finalement des choses pour le label. C'est-à-dire que vous produisez ici des artistes, vous allez être du coup producteur, peut-être distributeur aussi, je ne sais pas.
Oui, c'est un autre challenge qu'on s'est lancé, c'est d'être notre propre distributeur.
Beaucoup
c'est...
de challenges.
Oui, oui, on a du temps là, c'est pour ça, on en profite. oui, c'est un de nos challenges. Mais de toute façon, oui, le Pioui, le nouveau Pioui, avec un point d'exclamation,
voilà, c'est
vraiment le label de Sextant. Voilà,
oui.
ça reste et c'est dans la maison Sextant. Mmh. Donc effectivement, le studio, on a cette chance d'avoir le studio qui est un véritable outil, notre outil pour pouvoir faire de la production qui nous intéresse, et ça c'est sûr.
Alors vous aviez initié d'ailleurs ici des petites séances de films, vidéos, vous filmez des musiciens, c'est des petites sessions qui s'appellent pause. Donc ouais. Ça aussi c'était nouveau, hein, un petit peu avant le confinement, là, que ça a été lancé.
C'est typiquement, ça par contre, c'est typiquement un résultat du confinement. Mm. À un moment, c'était soit on se tapait la tête contre les murs, soit on faisait quelque chose. Mm. Et voilà, pause vient de cette envie de rebondir sur une activité, sur quelque chose.
Et vous proposez ça en tant que label à vos futurs musiciens peut-être ou...
Alors c'est là où toutes les choses, oui, viennent s'entrecroiser. C'est pas forcément les numéros de pause sont pas spécifiquement reliés au label, mais ça peut l'être.
Dans tout ça, il y a une notion effectivement d'un peu d'urgence et de responsabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement des petits gars passionnés qui se font plaisir en faisant des disques qui nous plaisent si possible. Ce qui reste quand même la vérité. Et on peut s'enorgueillir de ça parce que finalement, je pense que nos passions, il s'agit de ça, même si le terme lui aussi est assez galvaudé, elles sont restées intactes. Mais disons que ça va évidemment au-delà de ça. La période qu'on traverse, elle nous a aussi, je pense, remis au centre de nos responsabilités avec l'âge que nous avons, qui a beau ne pas être canonique, il est quand même, on a quand même quelques heures de vol derrière, et je pense que tant qu'on aura la possibilité de cette indépendance, de cette possibilité de fabriquer des choses, ce qui n'est pas gagné, hein, parce qu'en fait, la maison Sextant n'est pas plus maligne que les autres, on est très très bousculé dans notre économie, qu'est-ce que sera 2022, on n'en sait rien. Mais en tout cas, tant que ça existe, ça nous a aussi quand même poussé au derrière, si j'ose dire, pour dire ok, on a cette chance-là, on a donc une responsabilité aussi pour faire du support avec les gens qu'on aime beaucoup, et puis les gens qu'on va découvrir, et puis réinsuffler un peu de la vie au moment où la vie est quand même un peu en péril. En tout cas, le lien est ce qui fait, je pense qu'en fait, ce qui nous fait faire de la musique, c'est évidemment la musique elle-même, mais plus le temps passe, plus on s'aperçoit que le plus important, en fait, c'est plutôt les liens que ça crée et la façon dont on fait les choses plutôt que les choses elles-mêmes. De ce point de vue-là, pause, c'est vraiment véritablement, c'est le propos, quoi. Le propos, c'est de dire waouh, purée, voilà le tunnel, quoi. Bonjour, tiens, on va peut-être sortir de chez nous et puis faire ça en toute légalité, mais enfin, quand même, on va se regrouper pour faire un peu de bruit, et puis ça va nous faire du bien, quoi. Il se trouve que on en fait un, on en fait deux, on fait Birelli Lagraine, on fait Simon Goubert qui nous font tous les deux espèces de chefs-d'œuvre, il faut les appeler comme ça. On est encouragé par des gens comme Art District Radio, un très bon média que je vous les recommande, qui s'intéresse au projet, qui nous relaie, et puis ensuite il y a Q-West qui s'intéresse et qui nous relaie, et on se dit bah tiens, il y a effectivement, on est en train de faire une petite écriture. Finalement, les choses, c'est peut-être ce qui est rigolo, intéressant dans toute cette période, ce qui moi me frappe beaucoup, c'est qu'en fait on sait pas trop où on va, mais à partir du moment où on est en mouvement avec de l'initiative et de l'engagement et du cœur à ce qu'on fait, finalement il se passe des choses, quoi.
Alors, Pee-wee Renaissance, enfin ça s'appelle Pee-wee avec un point d'exclamation en fait, hein. Ça s'appelle pas Pee-wee Renaissance, mais on l'appelle comme ça dans cette émission.
On peut dire Pee-wee, hein, c'est bien.
Voilà, hein. Pee-wee tout simplement. Il y aura donc des nouveaux albums, mais aussi des rééditions en fait du Pee-wee
ouais,
original.
Il va y avoir trois déclinaisons, on peut dire ça comme ça. Trois déclinaisons pour trois appellations. L'appellation, c'est Pee-wee, hein. De toute façon, le label, c'est Pee-wee. Mais disons que, on va dire, des sous-catalogues vont être Pee-wee Music, qui est en fait le catalogue d'origine des 26 albums dont vous parliez. Il y en aura une quinzaine qui seront remis à disposition le 28 mai.
D'accord.
Donc, remis à disposition, ça veut dire sur une version digitale, très souvent remasterisée. Il nous restait un peu de physique de l'époque, donc ces disques-là sont très rares, hein.
Collecteurs.
Très, très, très rares, des collecteurs.
Oui, on a un grand grenier. Donc on a pu s'en stocker.
Donc par exemple, je vous annonce, il faudra vraiment se ruer dessus parce qu'il n'y en aura pas assez. Oui. Il y a par exemple 500 albums de Tania Maria, de ce fameux album live dont je vous parlais. Un stock physique qui nous permet de remettre à disposition ces albums. Et puis ensuite les autres seront remis à disposition petit à petit. Donc ça c'est, on va dire, le premier sous-catalogue. Le deuxième va s'appeler Peewee Collection. Et dans cette partie-là, en fait, on a choisi de faire un travail de réédition, de nouvelle édition, sur des albums choisis du catalogue. Alors il y aura non seulement ces albums choisis qui nous paraissent particulièrement emblématiques, ou disons qui nous paraissent être des albums qui sont amenés à traverser les âges, quoi, vraiment qui ont une valeur historique forte. Ces albums-là, on va les retravailler et on va rajouter des bonus, on va parfois remixer, rajouter de la littérature, beaucoup de textes, beaucoup des nouveaux livrets, des nouvelles choses. Dans ce registre-là, en fait, le 28 mai, nous allons sortir la nouvelle édition de 10 billets, qui est un album assez qui a beaucoup marqué son temps et qui, on sent déjà avec François là, que les retours depuis qu'on a annoncé cette réédition sont très très nombreux. Pas plus tard qu'il y a un instant, j'ai des gens de Radio France là qui nous sollicitaient là-dessus. Cet album-là va pas passer inaperçu parce que c'est un album, c'est peut-être l'album majeur de ce grand artiste africain qui a beaucoup compté, Francis Bébé.
Masila neno be mabe unde odiba masango mena basandi no toboso bison botiti omba teneni bama pe manonde oliye neni be nombo deke to lambo titi la pema umate.
Francis Bébé, pour la petite histoire ou la grande histoire, Francis Bébé est un musicien camerounais qui est de la génération des indépendances de l'Afrique et donc qui a été un compagnon de tous les libérateurs, on va dire, de l'Afrique de l'Ouest, de Senghor, Césaire et compagnie, et qui a été ambassadeur de l'UNESCO, donc musicologue spécialiste, qui a fait beaucoup pour la connaissance des musiques traditionnelles d'Afrique de l'Ouest, qui par ailleurs est un écrivain qui a fait 7 ou 8 romans peut-être, quelque chose comme ça. Guitariste classique, vraiment un parcours. Alors lui, il est symboliquement très fort par rapport à ce qu'on défend nous, parce qu'il a vraiment touché des domaines très différents, des voix. Il a appris la guitare classique, et puis il était l'ami de John Williams, et puis et à côté de ça, il s'est beaucoup intéressé aux musiques ethniques et donc en particulier aux pygmées. Et donc il a développé des techniques très très élaborées avec les flûtes pygmées, avec les sansa et avec Francis, il est un petit peu, jusqu'aujourd'hui, il est un peu reconnu par les spécialistes comme le père de la world music. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il a souvent été qualifié de père de la world music. C'est lui qui a été un peu le grand frère de tous ces Africains qui sont venus à Paris après, en particulier de Manu Dibango, qu'il a hébergé chez lui pendant longtemps. Donc jusqu'aujourd'hui, c'est une figure très très importante, et le disque qui nous avait donné, on peut dire ça comme ça, qu'on a réalisé pour lui, c'est un disque de la fin de sa vie qui est plus un des disques les plus produits qu'il ait jamais fait. Donc c'est un très joli disque. J'ai un peu digressé, mais ça me permet de parler de nos sorties. Donc c'est Peewee Collection. Dans ce registre là le prochain que nous allons travailler, c'est le guitariste de flamenco Pedro Bacan. Et puis finalement, le troisième sous-département, si on peut dire, c'est Peewee, avec un point d'exclamation, effectivement, qui hébergera toutes les nouveautés.
Ouais, ouais. Alors justement, pour conclure cette interview, un petit mot sur ces nouveautés là qui sont là au mois de mai, là, qui arrivent très très vite.
Oui, 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 ça arrive.
Trois nouveautés, je crois.
Deux nouveautés.
Deux nouveautés déjà, oui.
Donc il y aura le disque de Francis Bébé donc dans les collections, oui. Et deux nouveautés, donc Sophia Domancich avec un piano solo. Je crois que c'est son troisième disque piano
c'est
solo.
Son troisième solo, ouais.
Un disque magnifique, très très émouvant, très touchant, très très libre, enfin magnifique, très très beau disque. Dans un tout autre genre, le disque d'un groupe qui s'appelle Zarbot, de la musique bien plus énervée.
qu'on a
peut-être en fond, là,
entendu, ils sont là en ce moment.
Ils sont en répétition.
Ouais.
Donc là, comment les qualifier, c'est un trio, batterie, guitare, et chant, trompette. Comment les qualifier, je ne sais pas, du jazz punk. énergique, c'est sûr.
Ça défie un peu les lois de la description, Zarbot. Ça poursuit un compagnonnage qu'on avait entamé avec le guitariste de Zarbot qui s'appelle Phil Reptile, que nous avions produit dans la première mouture du label. Et Phil, c'est à lui tout seul, c'est un monde musical. Je pense que je ne connais pas de musiciens qui connaissent aussi bien l'histoire de la musique au XXe siècle.
Ah oui.
Ouais. Je pèse mes mots, mais je connais pas du coup. Alors c'est une vision de musicologue certainement qu'il est, mais aussi d'un guitariste qui a une virtuosité très à lui. Mais c'est un guitariste virtuose, c'est aussi un sound designer parce qu'il travaille beaucoup avec l'électronique et avec le sampling. On a pu le voir dans des contextes aussi différents que avec Découflé, avec la danse ou avec Archie Shep ou avec Mina Agossi. Il a fait de la réalisation pas mal.
Il est sur
le dernier album d'Andy Emler. Donc c'est quelqu'un qui est resté un peu dans l'ombre, qui n'a pas vraiment, mais qui nous a toujours incroyablement passionnés. Alors il a une petite tendance à mettre les amplis guitare un peu fort. Ça c'est nul n'est parfait. Mais mais je veux dire qu'il a effectivement quand même des ressorts qui sont plutôt inscrits dans un univers sonore très rock, mais pas que. Il fait aussi des choses très électro, très et puis évidemment il est passionné par les musiques improvisées, qui est quand même peut-être quand même un ressort qui nous intéresse nous. Pour le moins on recherche des choses qui sont pas formatées, donc avec lui on est tranquille que ça a beaucoup de mal à, dans la même chanson c'est un peu les comparaisons sont un peu faciles et elles valent ce qu'elles valent, mais c'est vrai que on peut retrouver un peu des ingrédients dans la fabrication de ce que pouvait faire John Zorn il y a 20 ans, mais il est aussi très proche de Fred Frith ou de Sleaford Mods aujourd'hui, qui est ce groupe très improbable post-punk. Voilà, c'est vrai qu'il faut écouter. Il faut faut écouter, on ne sait pas ce qu'on va écouter. Et puis à la fin, une fois qu'on a fini d'écouter, on ne sait toujours pas ce qu'on a écouté. Mais en général, on est assez ravis, quoi. Et voilà, j'ai parlé surtout de Phil, mais il faut bien sûr mentionner Étienne Gaillochet, qui est un batteur qui est bien connu des services de police aussi, si j'ose dire, et qui avait en particulier ce projet qui a eu beaucoup de retentissement, qui s'appelle We Insist. Lui aussi, on l'a trouvé avec des couflets, et avec la danse. Ce sont des gens qui ont été très proches et qui sont toujours très proches de Nosfell, qui est ce chanteur merveilleux, tellement créatif, et qui a un peu percé le grand public. Et le dernier compagnon, c'est Mac Dara Smith, qui est pour moi un des poètes slammeurs vraiment important sur Paris. C'est un Irlandais très énervé, en effet, tu as raison François, très 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 en colère, mais avec une poétique qui est vraiment magnifique. Et puis c'est aussi un très sérieux musicien. Sur le registre à Paris, pour moi, il y a effectivement Mac Dara Smith, et puis il y a Mike Ladd. Alors je ne sais pas s'il faut les rapprocher. Moi, j'ai envie de les rapprocher. Mike Ladd, il a une plus grande notoriété pour le moment que Mac Dara. Enfin, ce sont des gens qui ont un univers très fort.
Merci beaucoup à tous les deux, Vincent Mahé et François Hiverna, de nous avoir fait partager votre passion de la musique et aussi cette nouvelle actualité pour découvrir et suivre donc toute la nouvelle vie du label Piwi avec un point d'exclamation. Vous deux et puis avec deux autres compagnons qui rejoignent le label.
Oui, on peut en dire deux mots parce que c'est très important. Ouais. Alors les deux autres compagnons sont Virginie Crouaille. Ça fait quelques années que Virginie vient au studio où elle fait de ce qu'on appelle la production exécutive. C'est elle qui a monté des dossiers très très délicats. Quand je veux dire par dossier, c'est vraiment elle a été en charge de mettre en forme des projets artistiques. Elle est venue enregistrer Marc Ducré, elle est venue enregistrer Dominique Pifarelli. Toujours des projets qui sont de très haut niveau et très exigeants. Donc c'est une passionnée, et en plus d'être une passionnée, c'est quelqu'un qui est très méticuleuse et très organisée. François avait besoin d'une compagne comme ça, parce que à côté de mon foutoir, ça lui fait du bien d'avoir quelqu'un qui est un petit peu dans les clous. Et voilà, elle est très engagée sur ce projet.
La touche féminine.
Je dois dire que elle et Simon
Goubert
ont été très responsables de la reprise de notre passage à l'acte. Quoi. Ils ont vraiment Simon Goubert. Ben, je vous fais pas l'affront de vous le présenter, parce que Simon fait vraiment partie des musiciens qui ont été très influents sur toute notre génération. Moi, j'ai eu l'impression de passer toutes ces années en admirant et en grandissant avec ce musicien. C'est un sentiment qui est formidable, l'admiration, et que jusqu'à aujourd'hui, je conserve intact pour lui, parce que bon, sa langue maternelle, c'est le jazz. Déjà, faut savoir, c'est très rare. Ça paraît rigolo comme ça, mais en réalité, c'est vraiment la vérité. Il y a peu de musiciens qui ont une connaissance, parce qu'il a été biberonné à ça, quoi, son histoire. Et puis parce qu'il a un goût très sûr, que par ailleurs c'est un grand virtuose. Donc Simon, en fait, on a enregistré pas mal de choses avec lui ici au studio, et puis on s'est rapproché doucement et sûrement, et c'est vrai que pour François et moi, c'était vraiment c'était un peu un rêve de l'avoir comme compagnon pour réfléchir à tout ça. Pour le moment il est très respectueux de l'histoire de Piwi, et du coup j'allais dire qu'il n'a pas été directeur dans les premiers choix, c'est pas lui qui a choisi Zarbot, mais il va le devenir vite, je pense. Et puis surtout, c'est un grand apport de pouvoir échanger. Ça nous plaisait aussi d'avoir ce complément qui va nous mettre vraiment complètement à l'abri de toute faute de goût et de toute faute de sur les critères objectifs. Je pense qu'à nous quatre, on peut avoir maintenant la prétention d'être des sérieux emmerdeurs, quoi.
Alors on va terminer là-dessus, c'est parfait.
Donc, merci beaucoup, hein, Julie.
Longue vie à Piwi, et puis évidemment au studio Sextant. Et d'ailleurs, je tiens à dire que nous, sur Art District TV, voilà, on relaie ces petites sessions vidéo qui s'appellent Pause, qui sont déjà une première entrée dans votre univers Sextant et Pioui. Et évidemment, on va suivre avec beaucoup d'intérêt toutes ces actualités. On vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux et prochainement, bientôt, sur un nouveau site internet, d'ailleurs, je crois.
Voilà. Rendez-vous le 28 mai.
Rendez-vous le 28 mai.
Rendez-vous le 28 mai. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Backstage, une émission à retrouver les mercredis et samedis à 14h sur Art District Radio.